Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Et puis je rappelle qu'il y a cet avertissement de smog pour le Grand Montréal et également pour plusieurs secteurs du côté sud, dans l'ouest également. Tout ça découle, vous le savez, des feux de forêt. Et d'ailleurs, ce matin, si vous n'êtes pas sorti encore à Montréal, là, c'est perceptible. On sent que la qualité de l'air est affectée et ça sent un peu quand même la fumée. Si on jette un coup d'œil sur les feux de forêt, au total, il y en a 125 toujours en activité au Québec. Et on peut dire qu'il y a deux éléments importants qu'on regarde. D'abord, pour ce qui est de Chibougamau, et on en a parlé avec la mairesse un peu plus tôt cette semaine, quand les gens sont revenus, je lui avais dit, est-ce qu'il y a des scénarios pour une deuxième évacuation? Et la réponse, c'était oui, parce qu'on ne sait jamais de façon précise comment les feux vont évoluer. Il y a des feux, puis je vais prendre l'image, là, qui se fusionnent et ça devient plus dangereux. Les vents joue également un rôle important. Alors, à Chibougamau, ce n'est pas acquis, mais c'est pas impossible qu'on soit obligé de procéder à une autre évacuation. Pour ce qui est de Lebel, sur Quévillon, le maire a dit hier soir, puis on va lui parler ce matin, il a un plan de retour à la maison. Ça ne veut pas dire que ce sera aujourd'hui, ni demain, mais qu'il a maintenant une bonne idée de ce qui va se passer. Et les citoyens devraient avoir le détail au cours de la matinée. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Un retour, c'est jamais simple. Là. Après cette période, surtout que le Bel-sur-Quévillon, ça fait longtemps que les gens ont quitté. Et il y a toujours la présence des pompiers qui sont venus de plusieurs pays, des Américains, Portugais. Et on va reparler tantôt, il y a un reportage sur une chaîne française de pompiers qui sont ici puis qui ont l'impression qu'on les utilise pas au maximum. Et je rappelle que ce sont des pompiers formés pour les feux de forêt. C'est pas là des gens qui débarquent à qui on doit donner une formation rapide, là. Mais c'est comme si on tardait à les rendre opérationnels sur le terrain. Et Frédéric va nous faire entendre ça, évidemment, ce matin. Parlons maintenant du bilan qui a été présenté hier par le SPVM au sujet des événements qui impliquent des armes à feu. Grosso modo, ce que la police nous dit, c'est que c'est en baisse d'à peu près 30 % par rapport à l'an dernier. Pourquoi? Parce qu'on a saisi beaucoup d'armes, que des individus décisionnels, des têtes dirigeantes ont été arrêtés et qu'on passe à une étape qui est de dire maintenant qui sont les gens qui pourraient commettre des crimes avec des armes à feu. Et ce que j'ai compris du directeur Fadi Daguerre, là, on parle pas là, de 2000 personnes. Là. C'est un nombre limité de gens qui sont probablement toujours impliqués dans les différents actes violents, que ce soit meurtre, tentative de meurtre, ou encore des coups de feu qui sont tirés contre des immeubles, contre des maisons. Donc, la police va procéder à cette autre étape, et comme il nous l'avait dit lundi, le SPVM promet des surprises aux gens du crime organisé. C'est assez rare qu'on envoie ça comme message. Là. Habituellement, tu fais ça discrètement, puis boum, tu fais des opérations. Mais on verra ce que ça va donner. Il y a évidemment tout ce qui se passe dans le crime organisé. Vous regarderez les photos ce matin, Journal de Montréal, puis j'ai vu les images là, à TVA, des funérailles de cet individu, M. Dalbalzo. Et quand vous regardez ça, ben c'est sûr qu'on voit les motards, les Hells, Martin Robert, ceux qui sont connus et qui assistent. Et je vous rappelle que toutes sortes de théories ont circulé depuis le début. Est-ce que Dalbalzo était devenu à ce point encombrant par les propos qu'il tenait? Est-ce qu'on lui a tendu un piège? On l'a fait venir à ce gym. Paraît-il qu'il aurait rencontré des gens du milieu des motards. TVA disait ça aussi, quand, en fait, dans les jours qui ont suivi. Est-ce que, bref, c'était le gars se débarrasser? Et on sait qu'il faisait l'objet de menaces depuis quand même très longtemps. Donc, comment évolue cette guerre au sein des factions du crime organisé? Ça va être intéressant. Bon, on va recevoir l'inspecteur Dominique Côté, qui est le chef de la division du crime organisé au SPVM. Dans la presse ce matin, le dossier des mini-hôpitaux. Je lis ce papier de Fanny Lévesque et d'Ariane Lacourcière qui est super intéressant parce que on va se rappeler là d'abord la promesse électorale du gouvernement de créer deux mini-hôpitaux. Et le concept qu'on nous a présenté, c'était de dire ce sera 24 heures par jour, 7 jours par semaine, un dans l'est de Montréal, puis on va en installer un autre dans la région de Québec, la capitale nationale. Mais là, tu te dis, mais c'est quoi un mini-hôpital? Ça va ressembler à quoi? Et là, je lis le papier ce matin, puis on se dit, t'as peu, là, c'est pas un hôpital, c'est une grosse clinique. Puis je lis les propos de Youri Chassin, qui est le député qui porte le ballon, puis ils ont pas l'air à trop savoir ce qu'ils veulent faire. En disant, là, quand quelqu'un te dit que le concept est en constante évolution, alors, ce matin, j'ai envie de poser des questions faciles, puis là, j'ai pas les réponses. Quel est l'objectif de ces mini-hôpitaux? Faire en sorte que pour des urgences mineures, les gens ne se rendent pas encombrés la salle d'urgence d'un hôpital. Le cas classique là, que je reçois dans mes courriels, là, c'est un enfant qui se blesse en pratiquant un sport, qui a besoin point de suture ou encore qui a besoin peut-être d'un plâtre. T'sais? Fait que c'est pas urgent, urgent, mais en même temps, tu peux pas rester 15 heures assis sur une chaise pour que ton cas soit réglé. Alors, les questions. Est-ce que dans un mini-hôpital comme ça, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, je pourrais me rendre et l'attente sera moins longue? Mon enfant fait une otite. Est-ce que je vais là? J'ai besoin de radiographie parce que je me suis blessé, mettons. Est-ce que c'est la place? Est-ce qu'il y a des chirurgies qui vont se faire là? Et ce que je comprends, c'est que des joueurs privés qui étaient intéressés ont dit, ben non, finalement, nous autres, on n'a pas d'intérêt. Là. Est-ce qu'une pharmacie va s'ouvrir dans ce mini-hôpital? Pas certain. Est-ce qu'on va être capable de recruter l'ensemble du personnel pour opérer? Sérieusement, tu lis ça, tu dis, je sais pas à quoi ça va ressembler. Et je sais pas ce que le gouvernement veut en faire. Et comment le citoyen va se retrouver, lui? Si, mettons, on ouvre ça dans l'est de Montréal, là, est-ce que je m'en vais là? Comment je me dirige? Je comprends que le projet n'est pas, attaché. Mais je suis obligé de vous dire que ça donne comme impression que le politique, que le gouvernement, que le ministre de la Santé a dit, c'est une option intéressante. Et ça se voit ailleurs, là. Puis d'ailleurs, on nous donne l'exemple à Jeffrey Hill, à Québec, où on a créé une espèce de centre pour les urgences mineures. Et d'ailleurs, la presse l'a visité, puis c'est un établissement public, mais spécialisé quand même. Ça te donne l'impression que le politique te dit « voici ce que nous allons faire » et que la machine en arrière, qui veut rien savoir d'ouvrir un pouce au privé, fait en sorte que ça marche pas. Ou qu'on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, puis qu'on va étirer ça. Tu sais, cette espèce de pouvoir de la machine sur le décideur. Tu sais, le premier ministre se lève, il dit, moi, je pense qu'on devrait faire ça. Le ministre de la Santé dit, moi aussi, je pense qu'on devrait faire ça. Puis là, ça va faire en sorte que les gens n'iront plus s'agglutiner à l'urgence pour rien. Tu sais, OK, faites que ça arrive. Puis il nomme un député. Puis là, whoop, on est dans le flou et dans le vague. Très bien, on va faire le tour de certaines nouvelles économiques ce matin qui sont importantes. D'abord, tout le secteur de l'habitation, cette crise du logement avec ce symbole du 1er juillet est de plus en plus claire à travers le Québec, je peux dire à travers le Canada, mais partout dans les régions du Québec, là, vous avez des reportages ce matin sur des municipalités qui n'ont pas assez de logements. Il n'y a pas de mise en chantier. D'ailleurs, les chiffres qui ont été donnés hier par l'économiste de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, là, la PCHQ, 62 % de baisse de mise en chantier au Québec au mois de mai. C'est le pire score depuis 25 ans. Alors, non seulement on manque de logements, mais on en construit de moins en moins. Et on a vu le sommet des intervenants, les fameuses parties prenantes cette semaine, qui ont dit « il faut qu'on se parle, il faut qu'on trouve une solution ». La ministre Duranceau, France-Hélène Duranceau, était ici hier. C'était assez flou. C'est pas qu'elle n'a pas un plan, mais je ne sais pas encore exactement ce que ça veut dire. Puis quel est le rôle des villes, comment le financement va se faire, comment on va inciter des promoteurs à développer, comment on va enlever la bureaucratie municipale qui fait que des projets tombent dans le drain, que des promoteurs avec la hausse des taux d'intérêt se disent « wow, moi je suis pas pressé, j'attends, puis je ramène ça à plus tard ». Autrement dit, quelle sera la vraie cible, les vrais chiffres, puis comment ça va se ventiler? Alors, il y a quand même un point d'interrogation. Et il y a ce papier ce matin de Gérard Filion de Radio-Canada qui est bien intéressant. Gérard Filion met en évidence deux phénomènes. Justin Trudeau qui veut augmenter la population canadienne par l'immigration. C'est un volume jamais vu jusqu'en 2030. Puis là, tu fais rentrer des gens, ça met une pression encore plus forte sur la construction, puis t'es pas capable de livrer. C'est comme si t'invites des gens chez vous, puis t'as plus de place. Puis t'as pas agrandi ta maison. En parlant de la ministre Duranceau, la presse nous dit ce matin, et ça a été d'abord publié sur un site web concernant, disons, situation délicate. Pour la ministre. Et quand je dis délicate, c'est la suivante. Elle est ministre de l'Habitation. Elle vient du monde de l'immobilier. Elle a une entreprise avec Annie Lemieux. Ils ont créé ça pour faire des achats, ce qu'on appelle flipper, ce qui est légal. C'est pas ça qui est en cause, dans la petite patrie à Montréal. Et Mme Lemieux s'est inscrite au registre des lobbyistes pour faire des représentations auprès de son amie avec qui elle est en affaires. Là, je comprends qu'elle ne l'est plus, là, mais en tout cas, elle l'a été. Pour ce qui est de tout le secteur de l'habitation, du logement pour les personnes âgées. Puis la ministre Sonia Bélanger fait l'objet de ce mandat de lobbying. Il n'y a rien d'illégal, là. Son amie est inscrite. Mais sérieusement, là, c'est pas trop, trop prudent. Son ami ne l'aide pas. Moi, je serais ministre, puis un de mes amis avec qui je suis en affaires viendrait s'inscrire pour faire du lobbying, je serais mal à l'aise. Puis savez-vous quoi? Je dirais, moi, je rencontre pas mon ami dans ce cadre-là, pas plus qu'à l'extérieur de ce cadre. Faites des représentations auprès de la ministre Bélanger, si vous voulez. Moi, je me mêle pas de ça. Je trouve ça maladroit, politiquement pas fort. Puis en termes, disons... de respect de l'amitié, on repassera, là. Alors, t'as le droit de faire des représentations quand t'es, par exemple, à la tête d'une entreprise. Il y a des bases, il y a des règles qui encadrent ça. Mais disons que c'est un peu glissant ce matin comme histoire. Et, tu sais, ils sont partenaires dans des sociétés dans le secteur de l'immobilier. Puis là, on ne sait pas exactement ce sur quoi ont porté les discussions, mais que ça voulait finalement probablement mettre de la pression sur des politiques d'habitation puis des politiques qui concernent les personnes âgées. D'autre part, concernant le service à la clientèle, je le disais un peu à la blague tantôt, mais c'est quand même sérieux. Les gens trouvent que le commerce en détail fait dur. Pas partout, là, je parle de tendance générale. Alors, c'est un sondage du Conseil québécois du commerce de détail qui dit quoi? Qui dit d'abord, quand tu rentres dans un magasin, essaie de trouver quelqu'un qui peut t'aider, là, tu vas chercher. Quand tu trouves quelqu'un, finalement, il n'a pas nécessairement toutes les réponses, il n'a pas eu la formation, il connaît pas très bien ses produits, et là, tu te débrouilles. Je généralise. Mais le sondage, là, en gros, 25 % des gens disent, ce n'est plus ce que c'était. Je regarde les mises à pied chez Rona. Je comprends, il y a le siège social, mais la bannière a perdu du lustre. Moi, je suis pas un addict de quincaillerie, mais j'ai bien des collègues de travail qui aiment ça, puis qui me disent, Rona, tu rentres là, ils savent pas de quoi ils parlent, tu cherches, pas grand monde pour t'aider, et ça commence à se traduire. Et ça se voit en restauration, où des fois, le service est so-so. Bref, il y a comme une forme d'insatisfaction. Parce que tu as moins d'employés, puis là, ils vont vous répondre, ouais, mais faut les payer plus cher. Autre volet économique intéressant ce matin, ça concerne les cartes de crédit et les prêts auto. Les chiffres qui ont été rendus publics par la Banque du Canada et par Statistique Canada montrent qu'il y a une pression énorme actuellement sur ces deux catégories de prêts. Les gens ont de la misère à gérer leurs cartes de crédit. La pression est très forte. Pour les prêts hypothécaires, disons que comme c'est la priorité, là, ton toit, c'est sûr que tu tentes de serrer tes dépenses pour être capable d'y faire face. Mais en gros, on peut dire là, que plus ça avance, plus les Canadiens, en général, commencent à avoir de la misère à bouger. Là. Ils sont comme coincés par la carte de crédit, le prêt hypothécaire, le prêt auto, et ça peut être lourd. Rapidement, il y a tout le dossier de Paul Bernardo. Qui, vous le savez, a été transféré d'un pénitencier maximal à un médium parce qu'on a changé sa cote de sécurité. Le ministre Mendicino a dit, ben, on m'a pas informé. C'est devenu la réponse rapide là, de plusieurs politiciens. Conseiller de Justin Trudeau, oh, je vais pas informer le PM de ça. L'ancien ministre, enfin, il est toujours ministre, mais Blair, qui était dans un autre portefeuille, a répété ça. Le ministre de la Défense a dit, pendant qu'on évacuait l'Afghanistan, moi, je regardais pas mes courriels. Mais c'est quoi cette espèce de réponse de, je suis ministre et je ne sais rien. Mon cabinet ne m'a pas informé. On me fait des cachettes. On ne me dit pas tout. Puis il fait le go outré, là. Je suis scandalisé de ce qui se passe. On comprend, puis Boisvert dans la presse a raison. Tu veux pas que le politique se mêle des décisions du service correctionnel? Mais on peut-tu au moins essayer de comprendre pourquoi un gars comme Bernardo, et par respect pour les familles de victimes, comment ça se fait qu'on décide de le changer de place? En quoi sa cote de sécurité a changé au fil des années?
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Les événements impliquant les armes à feu sont à la baisse, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Ça veut dire des saisies d'armes, disons, importantes, puis des arrestations. Par contre, cette criminalité qui a, disons, secoué la ville de Montréal pendant, et Laval aussi, un peu moins Longueuil, il y a quand même une possibilité que l'été soit chaud. Le directeur nous l'a dit, ça peut encore éclater. J'en parle ce matin avec l'inspecteur Dominique Côté, qui est le chef de la division du crime organisé au service de police de la ville de Montréal. Monsieur Côté, bonjour.
Bon matin, M. Arcand.
Donc, une baisse de 30%. Moi, je me méfie toujours des chiffres, là. Ce que je veux savoir, grosso modo, il y a moins d'événements. Comment vous avez pu atteindre cet objectif-là? Autrement dit, c'est quoi la stratégie? Je comprends qu'on a frappé le haut de la pyramide. C'était ça qu'on voulait faire au départ?
Ben, on a frappé à plusieurs niveaux. Puis tu sais, j'entendais les gratifications qu'on obtenait par rapport aux stratégies qu'on a fait, aux événements qu'on a réussi, aux arrestations qu'on a été capable de faire. Mais ça serait très chauvin de notre part de pas parler de tout le partage de puis de la collaboration qu'on a avec les autres services de police. Tu sais, on a appris avec le temps que ce qui se passe à Montréal, ça passe aussi ailleurs. Donc pour moi, pour notre organisation, une arrestation qui est faite à Laval, une arrestation qui est faite à Longueuil, une arrestation qui est faite par la SFC, c'est bénéfique pour nous. Fait qu'on frappe à tous les niveaux. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites, autant disons, niveau 1, niveau 2, niveau 3. On a frappé des têtes, on a travaillé fort sur le crime organisé de haut niveau, mais c'est vraiment multifactoriel. Le travail qui est fait aussi avec le communautaire, l'implication qu'ils ont, on n'en parle pas souvent, c'est pas vu, c'est pas médiatisé comme ce que nous on fait. Mais c'est tout aussi important. Là.
Mais moi, je veux quelque chose de plus concret ce matin. Là. Je veux savoir, par exemple, êtes-vous allé voir des chefs de gang en disant, là, vous arrêtez ça parce que ça va trop loin. Là.
En toute franchise, il y a des messages qui se sont passés.
Okay.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde du crime organisé change aussi. Tu sais, ce qu'on connaît de l'époque passée, et tu sais, puis on en parlait ce matin, ce qui circule comme image par rapport aux dernières funérailles, ça nous rappelle un peu les époques d'avant. Les clans, les familles. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça change. Le fait...
Qu'est-ce qui change?
C'est l'ouverture sur le monde a fait en sorte que des gens qui n'ont aucune implication avec le monde du crime organisé peuvent devenir des fournisseurs de haut niveau. On l'a vu avec
Donnez-moi un exemple pour que je comprenne mieux.
Le meilleur exemple que je peux vous donner, là, c'est un peu l'opération qu'on a fait avec l'anti-gang où M. Francis Renaud était venu vous parler, les pilules, Breaking Bad. C'est un bel exemple. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement d'implication dans le milieu du crime organisé pur et dur, comme les mentors, les Italiens ou peu importe le clan, mais qui deviennent des acteurs importants. Puis la raison pour laquelle, c'est qu'ils ont accès à tout ce qui est possible. Dans le milieu d'avant, t'avais pas grand choix. Fallait que tu passes par à peu près les mêmes personnes pour être capable d'obtenir ce que tu avais besoin. Que ça soit de la drogue, que ça soit à peu près n'importe quelle chose dont on parle. Aujourd'hui, les milieux de la fraude sont lucratifs. Le vol de véhicules est devenu un incontournable, c'est lucratif. Le détournement de fonds, il y a plusieurs choses qui font en sorte que on n'a plus nécessairement besoin d'avoir l'acceptation d'un clan pour pouvoir travailler puis faire de l'argent en mode crime organisé.
Je me souviens d'une époque où, disons, les leaders du crime organisé, les figures dominantes, quand ça chauffait un peu trop, envoyaient des messages aux inférieurs puis disaient, là, c'est pas bon pour la business, vous nuisez à nos affaires, fait que là, vous allez arrêter de vous tirer dessus, vous allez vous calmer. Est-ce que, j'allais dire, la mafia, par exemple, a pu aider? Est-ce que les motards ont pu, là, entre guillemets, aider à faire baisser la tension?
Assurément que quand la police travaille fort comme on le fait, c'est pas bon pour la business. Mmh. Donc, je comprends que à certains égards, ils ont dû le faire. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça prend de l'écoute. Puis un peu pour les mêmes raisons que je vous ai données, ben, j'ai pas besoin de toi. Fait que même si t'es pas content, je vais continuer de travailler comme ça me tente. Puis à un moment donné, ça devient des intermédiaires. Puis des hommes de confiance, il y en a de moins en moins. Donc, on prend des intermédiaires pour faire le travail.
Des sous-traitants,
si on veut. Et ces gens-là, tu sais, c'est pas tous des prix Nobel, là. On a certains de ceux qui ont été arrêtés. Ça devient compliqué là, de faire des contrats aujourd'hui avec les efforts qu'on déploie là, comme service de police. Les techniques d'enquête ont évolué. Des caméras, il y en a un peu partout. Ça augmente notre charge de travail. Ça, c'est vrai. Mais on les pogne. Fait qu'à un moment donné, il y a aussi des messages qui doivent se passer. Là. La journée que tu veux travailler puis faire un contrat comme celui-là, attends-toi, là, la police va être là. Puis il y a un vieux sage qui m'a dit un jour, « You can run, but you can hide. » Ben, c'est un peu ça, là. On va aller chercher, puis on va aller chercher où ils sont. On a des gens qu'on attend dans d'autres pays du monde.
Quand vous dites pas tous des prix Nobel, là, donnez-moi un exemple de niaiserie qui font qui.
Ben.
C'est vrai qu'ils gardent des armes de crime longtemps.
Ben, ça arrive. Tu sais, ce qu'on voyait souvent, c'est qu'on se débarrassait de l'arme.
Ouais.
Dans les cas d'avant. Maintenant, les armes sont dispendieuses et on se les passe. Donc, ça va arriver qu'on va la garder. Puis, on va garder l'arme, on va garder le linge, on va garder le véhicule, puis on va garder la plaque. Fait qu'à un moment donné, merci.
Je vais regarder un autre aspect quand vous parlez des choses qui changent. Puis, je fais attention, là, parce qu'il y a des procès en cours, là.
Ouais.
Mais il y a des événements, que ce soit des événements de coup de feu, de tentative de meurtre, et même de meurtre, où tu dis, il y a 25 ans, ça ne serait pas arrivé comme ça. C'est-à-dire, en plein jour, une femme qui est visée, tue une erreur sur la personne, je ne le sais pas, mais c'est quand même bizarre.
Ben, tu sais, la réflexion que je peux avoir avec vous par rapport à ça, c'est oui, c'est en plein jour, mais est-ce que c'est vraiment différent de ce que c'était? Tu sais, si on regarde l'histoire un peu du crime organisé, là, des situations comme celle-là, il y en avait.
Mais une femme?
Les raisons pour lesquelles, je les connais pas. Il y a à peu près la seule personne qui a passé le contrat qui le sait, pourquoi c'est arrivé. Fait qu'extrapoler sur la raison pourquoi c'est arrivé, on pourrait. Mais honnêtement, là, je serais pas capable de répondre à cette question-là. Pourquoi on a choisi cette dame-là, ciblée ou pas, la réponse, je la connais pas. À mon niveau, je la connais pas. Mais maintenant, tous les moyens sont bons pour arriver à nos fins. Hein? Donc, on parle... Le but du crime organisé, c'est de faire de l'argent. Fait qu'il y a deux raisons que tu fais ça. T'as trop parlé, t'es une distraction pour nous, t'es plus efficace pour l'organisation. On pense que tu peux avoir trahi le milieu ou on a juste plus besoin de toi. Fait que c'est un peu ça, là. Fait
que... Quand votre patron dit, il me l'a dit lundi, puis il l'a répété hier, que, mis à part le fait que là, vous allez continuer ces opérations avec, notamment auprès de gens qui potentiellement pourraient commettre des crimes avec des armes à feu, que la police va avoir des surprises pour les gens du crime organisé. Quelle surprise?
Monsieur Daguerre est très optimiste. Je vous dirais que c'est très motivant. Ça, on le prend de cette façon-là. Je veux pas aller dans le détail de ça. Mais sachez qu'on travaille très fort. On travaille très fort depuis longtemps en crime organisé. On s'attaque à tous les niveaux. Maintenant, on travaille encore. Les efforts sont encore là pour aller à
plus loin. Moi, j'ai été étonné. Habituellement, on le dit pas. C'est-à-dire qu'habituellement, tu prépares la surprise, mais t'annonces pas que tu prépares la surprise.
Parfois, quand on est enthousiaste, on est content de dire des choses.
L'autre question aussi, que toujours en parallèle avec ça, c'est qu'on regarde là depuis la dernière année, là, peut-être, là, mettons même depuis le début de l'année, 6 mois, du côté des Italiens. Ça va comment? Est-ce qu'il y a un chef risotto? Y a-t-il une structure? Y a-t-il un parrain montréalais? On a l'impression qu'il n'y a pas de leadership comme tel qui s'affirme.
On a un certain portrait en renseignement, mais c'est sûr que ça dépend un peu du renseignement qu'on obtient. C'est sûr qu'on n'est pas assis avec eux dans les pièces pour décider ou pour entendre ce qui se décide. Est-ce que c'est comme par le passé au niveau du pouvoir? J'aurais tendance à vous dire que non. Est-ce que les changements de clan, là, c'est l'histoire du crime organisé, en fait. Est-ce qu'on est dans une tournante? Peut-être. Monsieur Rizzuto, à l'époque, avait dit la journée où vous allez m'arrêter, vous allez perdre le contrôle. En même temps, on peut pas passer à côté, là. Il avait commis des crimes, c'est ça qu'il fallait faire. Puis on a mené à terme les enquêtes. Est-ce qu'il avait raison? J'irai pas là. Parce que, tu sais, un vieux sage m'avait dit à l'école, la plus grosse gang, c'est la police. Ben, c'est encore ça. La plus grosse gang, c'est la police. Fait que ceux qui doivent faire en sorte que tout le monde soit en sécurité, c'est nous. Pas demander à des gens du crime organisé de contrôler le milieu. Je comprends qu'il y en a qui essaient de le faire. Tant mieux. On passe certains messages. Tant mieux si ça fonctionne. Mais en même temps, c'est à nous de ramener le sentiment de la sécurité des citoyens.
Avez-vous l'impression que l'été sera chaud? Si on peut pas prévoir, là, je comprends, mais que à force de brasser ce monde-là, là, je sais pas, il y a des rivalités qui continuent. Il y a des gestes, des têtes brûlées là, qui vont poser des gestes.
Pour vrai, je sais pas quoi vous répondre. Parce que, tu sais, on s'est préparé pour le pire, on a espéré le meilleur. À date, ça fonctionne, mais j'aurais pu m'asseoir en studio aujourd'hui, puis il y aurait pu avoir deux fusillades hier, là. Donc, de prédire que l'été va être chaud, je le sais pas. Est-ce qu'il va y avoir des ripostes? Peut-être. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mécontents? Peut-être. Est-ce qu'ils vont faire différemment? Peut-être aussi. On comprend là, que de tirer des gens en plein jour dans le public, ça fait en sorte de susciter la forte attention du monde politique et de la police. Il y a eu d'autres façons de faire.
OK. En terminant, le fameux Del Balso, dont c'était les funérailles, avait été averti par la police que sa tête était mise à prix. Puis plus, je dirais aussi, véhicule incendié, il y a eu des tentatives de meurtre. Est-ce qu'il y a d'autres individus à Montréal actuellement dont la tête est mise à prix? À votre connaissance.
Sans entrer dans le détail, ce genre de situation-là où on va prévenir un individu que sa vie est à risque, ça arrive assez régulièrement. Est-ce que c'est toujours fondé? Non. Parce que, un peu comme ce qu'on vit avec nos informateurs, ben, parfois, ils vont nous faire regarder à gauche pour passer à droite. Fait que, est-ce que parfois ça aide le clan de donner ce genre d'informations-là? Oui. Mais c'est le genre de choses qu'on vit assez régulièrement.
Fait que je comprends qu'il y en a encore dont la tête, selon vos informations, vraies ou fausses, là, mes abris.
Oui, et ils le savent.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ça fait plaisir, Jacques.
L'inspecteur Dominique Côté, chef de la division du crime organisé au SPVM.
Vous écoutez L'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Très bien. On va parler des négociations dans le secteur public. Déjà, il y a des syndicats qui nous promettent un automne chaud, moyen de pression, grève peut-être. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, est avec nous. Maître Lebel, bonjour.
Bonjour.
On est le 16 juin. Quelle est la température ambiante aux tables de négociation?
Bien, la température ambiante va très bien. Moi, j'ai demandé là à partir de la mi-mai, justement, qu'on intensifie pour la période estivale. Bon, je dirais que... historiquement, ou plutôt traditionnellement, habituellement, il y a un petit relâchement pendant l'été là, de part et d'autre. Mais moi, j'ai été très claire auprès des équipes de négociation, la centaine de tables de négociation en éducation, en santé, entre autres, que je voulais que tout le monde soit disponible cet été. On a des enjeux qui sont criants dans le réseau de la santé puis d'éducation. Et j'ai fait le même appel aux syndicats. Donc, moi, ce que je veux présentement, là, c'est qu'on parle des solutions concrètes en organisation du travail. Après, on verra pour la suite. On comprend les récriminations sur les offres paramétriques pour la rémunération, les salaires. Mais depuis le début, les enjeux sont clairs en organisation du travail, santé, éducation. Puis quand j'aurai le sentiment qu'on fait des mouvements concrets, des gains sur le terrain, je serai peut-être plus parlable pour la suite.
Attendez, là. Là, je vais décoder un peu, là, parce qu'il y a des profs puis il y a du personnel du réseau de la santé qui écoute. Ce que vous leur dites, le message matin, là, c'est quoi? Donnez-moi-en un peu dans le normatif pour que je puisse avoir de la souplesse puis que je sois capable de mieux atteindre mes objectifs. Puis peut-être que je vais vous donner un peu plus d'argent si j'atteins ça.
Ben, excellente traduction de mes paroles. Puis faut pas penser que dans le normatif, il n'y a pas d'impact sur la rémunération. Parce que quand je parle d'horaires, de pouvoir avoir une meilleure composition des horaires pour les infirmières, à titre d'exemple, pour avoir plus de prévisibilité, on en est tous. La conciliation travail-famille, je le comprends. Mais il faut comprendre qu'on a un réseau public qui doit répondre aux besoins du patient. Et c'est un réseau qui marche 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Donc, moi, j'ai des horaires à couvrir les fins de semaine, le soir, de nuit. Je dois être capable d'avoir des infirmières. Et je le fais de la façon dont je le fais, c'est en offrant des primes, en étant capable d'avoir des rémunérations variables pour ce qu'on appelle, nous, les quarts de travail, disons, moins populaires. Donc, il y a nécessairement un impact sur la rémunération des infirmières qui vont accepter de travailler dans ces horaires-là. Donc, mais par contre, si je donne plus, mais la population reçoit plus. Donc, pour moi, là, il faut que les dollars que j'investis à la table de négociation, même si elles ont un impact positif sur la poche des gens, des salariés, ça doit aussi avoir un gain pour la population.
Ce que j'entends du côté syndical depuis le début, là, c'est de dire, vous voulez avoir des profs, vous allez avoir des profs avec la compétence requise, vous voulez plus de personnel que des gens qui ont quitté reviennent, par exemple, dans le réseau de la santé.
Oui.
Donnez des conditions de travail qui ont de l'allure. Donnez-moi une paye qui a du bon sens. Je pourrais faire un clin d'œil en disant que les députés se sont donnés 30 % d'augmentation. Comment vous expliquez aux profs puis aux enseignants puis au personnel du réseau de la santé qui n'ont pas droit à autant de considérations?
Bon, bien, regardez, dans la dernière négociation, là, la convention collective des enseignants a été qualifiée d'historique. On a fait un bond de l'ordre d'environ 18 % pour les enseignants et on a tous convenu avec les syndicats à cette époque-là que la prochaine étape était l'organisation du travail, la composition des classes, le fait... Pourquoi on perd nos enseignants de 0 à 5 ans le plus souvent? L'exode des enseignants se fait avant 5 ans. Pourquoi? Bien, il faut se poser la question dans l'organisation du travail, dans l'attribution des classes. Pourquoi je suis pas capable, moi, dans l'enseignement comme gouvernement, d'être capable de dire en juin qui va avoir quelle classe? Pourquoi qu'à chaque fois qu'il y a un changement, on joue à la chaise musicale et une école complète peut être perturbée par le bumping, on va m'excuser l'anglicisme, là, mais par le fait que un professeur peut tasser l'autre, peut tasser l'autre, peut tasser l'autre. Et ça prend de la stabilité. Quand on parle aux gens...
Mais là, sentez-vous qu'il y a une ouverture pour ça?
Ben, là, ça va me prendre des avancées concrètes du syndicat, okay, honnêtement.
OK, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'ouverture.
Ben, c'est parce que là, moi, je fais des avancées, je fais des dépôts et on me dit ça convient pas, ça convient pas. Donc, au-delà de ça convient pas, il va falloir que, moi, le message que j'ai lancé, puis ils seront pas surpris parce que c'est ce que je leur ai dit quand je les ai rencontrés, le Front commun, entre autres. Ben, faut se mettre en mode, ce qu'on appelle en mode transaction, en mode solution. Donc, au-delà de
mais
ça convient pas.
Mais ils disent qu'ils ont des solutions. Ben, chaque fois que je parle avec des leaders.
Ben, il va falloir qu'ils déposent aux tables.
Vous les avez pas vus.
Ben, il faut qu'ils déposent aux tables. Tu sais, la solution étant mettre fin au TSO, puis travailler sur la composition de la classe. Pour moi, c'est pas une solution. Ça, c'est le principe, c'est l'objectif. Oui, ils l'ont, cet objectif-là, on le partage. Maintenant, comment on travaille sur la composition de la classe? Comment on se donne de la souplesse dans l'attribution des classes? Comment je rétablis un équilibre entre l'ancienneté, qui est un principe qu'on veut respecter, mais qu'il faut rediscuter, l'expérience, et comment je fais pour aussi être capable d'appuyer mes enseignants qui sont... je dirais en bas de 5 ans, pour être capable de leur donner tout le support et de faire en sorte qu'ils se trouvent pas non systématiquement avec les classes qui sont les plus complexes. Donc, il faut qu'on se donne la permission d'en discuter.
En santé, actuellement, là, est-ce qu'on est encore dépendant des agences pour combler beaucoup de postes à des prix qui sont exorbitants?
Bon, on a encore malheureusement besoin des agences. Il y a eu des appels d'offres qui ont été faits, ouais, pour avoir des contrats avec ces agences-là. Et on veut s'en détacher tranquillement, pas vite. Naturellement, l'enjeu qu'on a à très court terme, c'est que on ne forme pas une infirmière en 24 heures. Hein? Donc, que ça prend un certain délai, mais je pense qu'il faut aussi se donner les moyens à travers les conventions collectives d'avoir cette souplesse-là de réorganiser le travail.
Mais vous allez m'expliquer une affaire. Comment la présidente du Conseil du Trésor, qui a la poigne sur les finances publiques, là, a pu laisser passer des augmentations, je dirais, gargantuesques des agences sur les taux horaires qui ont été imposés dans le réseau?
Bon, ben c'est une question de budgétaire dans la santé qui avait les budgets pour le faire. Faut pas oublier qu'on était en temps de pandémie quand les budgets ont augmenté à ce moment-là.
Mais il y a des gloutons qui se sont empiffrés.
Ben, écoutez,
là.
Quand on a une urgence et qu'on a des besoins criants, malheureusement, ça a été la même affaire avec l'acquisition des masques, à titre d'exemple, et des blouses, ou quand on est dans une situation d'urgence puis on a un feu à éteindre, je veux pas faire une mauvaise analogie,
non, non, non.
Là, mais on le voit, là, il faut pas être regardant parce qu'il y a des situations qui sont criantes.
Mais maintenant, ça veut dire qu'il y a des gens, des entreprises qui ont abusé de la situation puis avec lesquelles on est obligé encore de faire affaire.
Ben, en disant qu'on était dans des situations où, malheureusement, trop souvent, on n'avait pas le choix. Parce que c'est pas de gaieté de cœur. Il y a personne au gouvernement qui est heureux de dire, ben moi, je vais payer un prix exorbitant ou X pour avoir un service. Notre objectif, c'est toujours de rendre le service. Puis faut pas oublier que pendant la crise sanitaire, ben on était dans un paradigme où on n'avait pas le choix. Il fallait agir. Maintenant, l'heure est à redresser la barre et trouver les solutions pour se détacher justement de cette dépendance là qui s'est créée au fil des années, au fil du temps.
Je reviens à la négo là dans le secteur public. Ce que je comprends, c'est qu'on parle, on discute, mais que là, ce que vous me dites, le constat, c'est faudrait passer à l'autre étape. Là. On est rendu aux choses un peu plus sérieuses.
Absolument, absolument. Là, il faut arrêter de dire, de s'expliquer la clause 222 du paragraphe 4. Là. Je pense qu'il faut avancer. Puis c'était ça, je reviendrai pas avec les forums comme lieu physique. Là.
Non,
mais
ça,
c'est
ça, vous avez laissé tomber.
Ben, j'ai laissé tomber le fait de les réunir tous à la même table, mais j'ai pas laissé tomber les priorités qui étaient au cœur des forums, faut se comprendre. Donc, on les amène quand même, ces priorités-là, aux tables de négociation. Malheureusement, on les fait de façon un peu plus individuelle, mais elles sont quand même regroupées, ces priorités-là, et on doit travailler sur ces concepts-là. Puis c'était justement de trouver de la souplesse dans l'équipe classe, dans l'équipe soins. Donc, ce que je disais tantôt, là, la composition de la classe, l'attribution des classes, c'est important. Comment je fais pour avoir, moi, des infirmières dans les horaires défavorables, tout en leur donnant une prévisibilité, parce que je le comprends, mais il faut aussi comprendre que c'est un réseau qui fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7, là. C'est pas du 9 à 5 lundi au vendredi, le réseau de la santé. Puis quand on s'engage dans ce réseau-là, on le sait. Mais maintenant, je peux comprendre qu'on a un équilibre à trouver. Mais il faut remettre sur la table des paradigmes qui sont ancrés dans le béton, là, qui fait qu'on est je dirais, sclérosé dans notre façon d'agir.
En terminant, c'est quoi? Le pire paradigme que vous dites qui est dans le béton, le coulé depuis des années?
Ben, je dirais que c'est l'ancienneté, mais de la façon dont il est utilisé, pas le principe de l'ancienneté, mais l'ancienneté qui est reliée à un hôpital, à une école, qui est reliée à un petit territoire. On n'a pas nécessairement, même dans la fonction publique, on n'a pas ce principe d'ancienneté-là. On l'a, mais il est relié à la province de Québec. Donc, il y a une mobilité. C'est ce manque de souplesse-là dans la mobilité. Puis là, je veux juste qu'on m'entende, là, parce que j'entends les enseignants, les infirmières. Je ne suis pas partisane de mettre à la poubelle le principe de l'ancienneté. Je le comprends. Mais il faut se permettre de le revoir et peut-être de l'élargir. Parce qu'il y a même des enseignants qui me disent, c'est pas normal si je change d'école que je perde mon ancienneté. Une infirmière qui me dit, c'est pas normal si je change de région que je repars à zéro. Donc, même les gens sur le terrain le comprennent qu'il faut se permettre d'en discuter. Et moi, je dois récupérer de la souplesse, mais je sais que ça va se faire en discutant avec les syndicats. Puis il va y avoir des contreparties et il va y avoir donc un impact significatif sur la rémunération.
Merci beaucoup d'être venue ce matin. Sonia Merci. Lebel est la présidente du Conseil du Trésor.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Alors, c'est bien sûr le Grand Prix de Formule 1 qui domine.
Oui, effectivement. On peut dire que ça a commencé hier avec les festivités sur Peel Crescent. Et là, aujourd'hui, les pilotes entrent en piste. Il y aura les séances d'essais libres, les qualifications demain et la course dimanche. Et pour en parler, on accueille le président promoteur du Grand Prix de Formule 1 du Canada, François Dumontier. Bonjour, François.
Bonjour, Alain.
François, je t'écoutais plus tôt cette semaine. L'an dernier, le Grand Prix a établi de nouveaux records d'affluence, d'assistance. Et là, vous vous attendez à battre ce record-là cette année.
Oui, on s'attend à le battre, mais écoute, on ne s'attend pas à le battre de beaucoup. Il faut réaliser qu'on est sur une île. C'est assez limité. Je pense qu'on a atteint le maximum de ce qu'on peut faire sur l'île Notre-Dame. Mais on a quand même ajouté quelques milliers de places. Alors, donc les billets seront vendus. Est-ce que les gens vont se présenter ce week-end avec la météo qu'on annonce? On verra, mais oui, on pense qu'on va être, ça va être le plus gros Grand Prix de l'histoire.
Ça veut dire une chose, c'est que l'engouement pour la Formule 1 ne diminue pas, là, et pas seulement au Québec, parce que la majorité des visiteurs viennent de l'extérieur du Québec.
Ouais, la statistique de 2022, là, c'était 57% de nos acheteurs de billets qui nous provenaient de l'extérieur du Québec. Mais c'est vrai que l'engouement, je la vois partout, là. Tu sais, je voyage sur d'autres Grands Prix. On la voit partout. Je pense que les British Media ont fait un bon travail d'un point de vue marketing. Mais ce qui a fait le gros du travail, évidemment, c'est la série Drive to Survive là, sur Netflix. Ça nous a amené de la nouvelle clientèle, des jeunes, une clientèle féminine aussi. Et ça, on le voit à travers le championnat du monde.
Et il y a une chose qui semble pas nuire à la popularité du sport, c'est le fait que, bon, il y a toujours un pilote qui domine. Ça a été longtemps Lewis Hamilton. Là, c'est Max Verstappen. Mais ça n'empêche pas les gens là, de suivre les courses de Grand Prix au cours de la saison.
Non, t'as raison, mais aussi la F1. Tu sais, pourquoi il y a des pilotes qui dominent comme ça? Ben, en F1, c'est des cycles. Parfois, on va changer des règlements. Les ingénieurs vont mieux adapter ou mieux comprendre les règlements et la voiture va être supérieure. Et là, Max domine. Mais là, tu vois, en arrière, Mercedes a fini sur le podium en Espagne. Aston Martin fait très, très bien depuis le début de la saison. Alors, il y a quand même de bonnes batailles en arrière. Et la saison est longue. On a encore beaucoup de courses devant nous.
OK. Moi, j'aimerais regarder un peu l'aspect technologique. Les changements futurs à venir. Il y a toujours un enjeu quand on parle du Grand Prix sur les gaz à effet de serre et tout ça. Comment la technologie évolue en Formule 1? Puis à quel moment on va sentir les changements les plus importants?
Les changements les plus importants, pardon, on va les changer en 2026. Ça, c'est un gros changement au bout de la réglementation des moteurs, aussi des carburants. On essaie d'avoir des carburants éco-responsables. Déjà, une voiture de Formule 1, c'est une voiture hybride. Hein? On oublie ça, on pense toujours que c'est une voiture à essence seulement, mais il y a environ 50% de l'énergie nécessaire pour la course qui est hybride. On le voit parfois là quand on voit une voiture de l'arrière, la lumière rouge clignote. Donc ça veut dire que la batterie se recharge. Depuis 2015 qu'on est hybride et on sait jamais une formule électrique, ça je l'annonce, mais la technologie qu'on va avoir en 2026, la F1 a toujours été un banc d'essai pour les voitures de Monsieur Tout-le-Monde et je pense que ça va être le cas aussi pour ces carburants-là qui sont synthétiques ou il y a plein de projets devant nous à ce niveau-là.
OK. L'autre aspect, on le voit dans le sport mondial, la présence des pays arabes, l'Arabie Saoudite, Qatar, on l'a vu avec le soccer, ils sont propriétaires de clubs. Je disais ce matin qu'ils sont partenaires avec Lawrence Stroll dans
Aston Martin.
On a vu avec le golf. Est-ce que, toi qui te promènes à travers le monde puis qui fais les grands prix, est-ce que un jour, tu penses que, puis je sais qu'il y a des grands prix là, en Arabie Saoudite, mais que l'Arabie Saoudite pourrait être tentée de dire on a assez d'argent puis on va acheter ça en Formule 1?
Ah, ça pas, c'est pas impossible. J'ai déjà entendu ce genre de discussion là. C'est sûr qu'ils sont de plus en plus présents. Ils ont de l'argent. Puis c'est sûr, en plus, on peut pas se comparer avec ces grands prix là. Il y a 23 courses dans une saison. On comprend que ça prend une variété de circuits, mais là on tombe dans un autre niveau. Là. Quand on parle d'Abu Dhabi, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, le Qatar, c'est des circuits qui sont magnifiques. Mais oui, est-ce que ces gens-là un jour seraient intéressés? Je pense que ça ne me surprendrait pas.
L'autre enjeu qui est sur la table, c'est la date du Grand Prix. On aimerait peut-être regrouper les Grands Prix en Amérique du Nord. Êtes-vous disposé à changer de date et à déplacer dans le calendrier?
C'est-à-dire, Alain, qu'on comprend très, très bien la vision de la F1 puis de ce qu'ils voudraient faire. C'est très, très, très facile devant l'ordinateur là, puis de regarder, hey, on va jumeler les Grands Prix d'Amérique du Nord, on va jumeler ceux au Moyen-Orient. Sauf que on est 23 courses cette année, puis on a 23 réalités différentes. Oui, j'ai fait partie de certaines discussions à ce niveau-là. Évidemment, nous autres ici, on est en juin. Pour nous autres, c'est la date idéale. On pourrait pas trop la devancer avec la météo qu'on a, les vents qu'on a. Puis si tu demandes à Miami, est-ce qu'on voulait vous coller sur Montréal, ben à Miami, là, pour y avoir été là, au mois de mai, il faisait déjà très, très chaud. Il fait encore trop chaud. Et le deuxième facteur, ben c'est souvent la disponibilité des circuits. Là-bas à Miami, par exemple, c'est autour du stade des Dolphins. Et ils doivent redonner le stade, les stationnements, etc. Donc, on comprend ce qu'ils veulent faire. On veut y participer. Mais c'est pas évident de composer avec les réalités, les 23 réalités, dans le fond, du championnat du monde.
Et retourner à l'automne, comme ça a déjà été le cas, ça, c'est hors de question, je pense, hein?
Écoute, ça, c'est comme une dernière... C'est le projet Z, mettons, là. Parce que nous, ça nous prend du temps à monter le circuit. On commence à peu près à la mi-mars pour le livrer au mois de juin. Si on fait ça à l'automne, évidemment, le parc Jean-Drapeau, c'est un parc public, c'est un parc pour les citoyens de Montréal. On voudrait pas être... bloquer l'accès aux citoyens durant l'été pour préparer le circuit. Puis on se souviendra qu'en 78, il y a neigé quand même... le 8 octobre 78, quand Gilles a gagné.
Faut toujours se rappeler ça. François Dumontier, merci.
Merci, François. Bon week-end.
Merci. Bonnes vacances, Paul.
Salut. François Dumontier, qui est le président et promoteur du Grand Prix de Formule 1 du Canada. Tu vois, les Saoudiens, là, dès que je vois une organisation internationale de golf, de foot, là, c'est de la Formule 1. C'est sûr.
Là, ils ont déjà un pied dans la Formule 1.
En plus, tu comprends, comme il y avait un pied dans le soccer en étant propriétaire de club, là. Mais c'est certain, ça fait partie des opérations, appelons ça, de blanchiment.
S'ils n'ont pas un pied dans l'organisation, ils vont créer une ligue, comme ils ont fait avec le golf.
C'est une excellente observation.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.